Parlons spectacle et plus particulièrement de mentalisme sur Attitude avec un artiste qui sera ce samedi dès 20h sur la scène de l'espace Cara pour son nouveau spectacle Archétype. Nous sommes en ligne avec Fabien Olicard. Bonjour.
Bonjour.
Fabien Olicard, vous êtes vidéaste, actif notamment sur YouTube avec des vidéos très diverses qui traitent principalement de mentalisme mais aussi de la mémoire et de la gestion du temps, des sujets pour lesquels vous donnez des astuces et des démonstrations et qui sont approfondis dans des livres que vous publiez régulièrement. Alors, avant d'aborder votre nouveau spectacle, commençons par un rappel des bases. Et pour la première question, je laisse la parole à Eva.
Oui, merci Seb. Alors, pour resituer nos auditeurs, vous êtes donc mentaliste. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est un mentaliste ?
C'est la grande question. Alors moi, en général, quand je dis que je suis mentaliste, les gens se demandent si je suis magicien ou si je suis voyant. Alors, c'est pas tout à fait l'un, c'est pas l'autre non plus. Et c'est la subtile frontière entre les deux, ça s'appelle l'escroquerie, du coup. Mais c'est l'escroquerie honnête. Disons que, pour moi, un mentaliste, c'est quelqu'un qui a un cerveau et qui s'en sert. Donc, a priori, on est tous mentalistes. Et après, si on rentre un petit peu dans ce qui se pratique ces 80 dernières années, c'est un art du spectacle qui est issu de l'illusionnisme. Mais là où le magicien va faire un tour avec des cartes, le mentaliste va faire un tour dans les pensées des gens. Donc, on va y rajouter de la mémoire, de la psychologie, dans le but de bluffer les gens pour les divertir. Et puis dans ma manière de pratiquer, ben moi ce que j'aime bien c'est donner les astuces pour que les gens se bluffent eux-mêmes en fait et se rendent compte qu'ils sont capables de faire plein de choses avec leur cerveau.
C'est vrai que votre savoir-faire fait appel à plusieurs disciplines. Lorsque vous faites par exemple des vidéos d'analyse de non-verbal sur les discours officiels, vous prenez la précaution de rappeler que ces disciplines sont avant tout des interprétations, mais pour que ces interprétations tombent très souvent justes et vous permettent de décoder beaucoup de comportements, mais il a bien fallu les mettre au point, les perfectionner, les transmettre. Mis à part les spectacles, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine ces disciplines ont été utilisées et comment vous en êtes venu vous-même à les apprendre ?
En fait, le mentalisme en tant que tel, il n'existe pas vraiment. C'est pour ça que je rigole de la définition, parce qu'il n'y a pas de définition d'arrêter. Et on confond souvent le mentalisme avec les spécialités dont il se nourrit. Par exemple, quelqu'un qui aime bien faire des tours, il a plus d'intérêt à s'intéresser à la magie, à être magicien. Quelqu'un qui s'intéresse plus à ce que vous parliez là sur les analyses, il aura plus d'intérêt à devenir comportementaliste.
D'accord.
Plutôt que mentaliste. Vous voyez la subtilité. Quelqu'un qui veut travailler des techniques d'influence a plus d'intérêt à travailler sur la négociation, que ce soit la négociation, on va dire, business à la Harvard ou la négociation humaine à la négociateur du FBI, par exemple, à Chris Voss. Le mentalisme en soi est toujours en fait une sorte d'agglomérat de toutes ces techniques-là. Et en réalité, souvent, les gens ont le fantasme d'une technique particulière. Moi, j'ai rencontré ça un petit peu par hasard à l'âge de 8 ans dans un bouquin sur un vide-grenier dans mon petit village à Martigny, je suis pas très loin, je suis en Charente-Maritime, qui s'appelait Cours Magica de Robert Veynaud. Et le dernier chapitre s'appelait « Il n'y a pas de truc ». Et c'était des astuces d'influence psychologique pour faire des numéros avec. Alors ça a résonné en moi. Pourquoi ? Ça, on ne sait pas. Hein. Il y en a, c'est le sport, d'autres, c'est le dessin, d'autres, c'est la musique. Bon, ben moi, ça a été ça. Et ça ne m'a pas lâché. Sauf que, contrairement à mes petits camarades qui auraient pu découvrir ça, ce qui m'a passionné, c'était de me dire, mais comment ça se fait que ça fonctionne ? Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux sciences, etc. Et c'est bien plus tard, à l'âge adulte, où je me suis dit, tiens, je vais professionnaliser ça en faisant des spectacles avec.
Et contrairement aux magiciens illusionnistes qui ne révèlent jamais leurs trucs, souvent vous prenez plaisir aussi à partager et à un petit peu désacraliser ces choses bluffantes. Et concernant justement vos techniques de gestion de la mémoire, sachant que vous êtes capable de retenir une longue liste de chiffres ou d'objets et de les ressortir dans l'ordre, dans quelle proportion ces techniques sont-elles issues de vos expérimentations personnelles et dans quelle proportion sont-elles issues des disciplines que vous avez étudiées ?
Alors, en réalité, j'ai créé et découvert très peu de choses, moi, dans ma vie. Je me considère comme un passeur de savoir, mais pas comme un expert qui découvre, par exemple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'entends bien avec plein de gens comme Sylvie Chocron, qui est une chercheuse du CNRS en neuropsychologie, parce que elle fait des études. Alors, moi, je trouve ça génial, parce que je récupère tout son travail, et puis j'en extrais l'essence pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire de pratique avec cette connaissance. Et puis elle aime bien mon travail parce que justement, elle sort des études, elle en fait des conclusions, mais elle n'a pas forcément le clé en main, elle n'a pas forcément la projection de ce qu'on pourrait en faire ou pas. Donc moi, somme toute, j'ai beaucoup travaillé sur ce que j'ai appelé la data mémoire. Alors ça, je vous l'explique en deux secondes parce que je suis un passionné, je peux pas m'en empêcher. La data mémoire, c'est, vous savez, ce moment où vous vous dites « Ah mais tel chanteur, je connais son nom, mais je me souviens plus, mais je sais que je le sais ».
Ah oui.
Et donc c'est cette capacité qu'a le cerveau à avoir une espèce de grand répertoire où vous les persuadez et vous savez que c'est vrai, que vous avez une information quelque part mais vous n'y avez pas accès. Et en soi, quand on y réfléchit, c'est un peu fabuleux de se dire on sait qu'on le sait, mais on le sait plus, quoi. C'est fou. Voilà, donc j'ai pas mal travaillé là-dessus. Tout le reste, j'ai été pioché dans les travaux actuels, mais énormément aussi dans les civilisations anciennes, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Africains aussi, sur le continent africain, au Sénégal par exemple, les griots, qui étaient les sorciers, connaissaient l'histoire par cœur de chacune des familles du village, ils étaient la mémoire vivante, et je me suis dit, mais ces personnes-là, ils avaient compris des choses sur la mémoire pour retenir autant de choses. Donc je m'en suis énormément inspiré, et il y a beaucoup de techniques que je donne, qui sont des techniques qui étaient utilisées avant l'invention du papier en fait.
Et donc, pour revenir à votre nouveau spectacle archétype, comme l'a dit Seb, c'est déjà le quatrième. Quelles sont les nouveautés de celui-ci et sur quelle thématique porte-t-il en général?
Alors, dans les nouveautés, ça dépend l'œil qu'on y met. L'ADN est toujours le même sur les quatre spectacles, c'est-à-dire que c'est un spectacle d'abord d'humour. Les gens qui veulent nous rejoindre ce samedi, ils viennent d'abord pour se marrer pendant deux heures. C'est un spectacle fun, ça c'est la forme. Et puis le fond, effectivement, c'est le mental, c'est le cerveau, c'est le mentalisme, c'est la science, etc. Donc là, le parti pris, c'est d'arriver sur scène en disant « tout le monde est mentaliste ». Voilà, je vous ai escroqué pendant des années à pas vous le dire, mais vous êtes autant mentaliste que moi. Et du coup, il y a une question légitime qui reste, c'est « quel est votre type de mentaliste ?» Et j'ai fait des grandes recherches et il y a quatre archétypes différents. Et ça, c'est un prétexte, hein. C'est des recherches sorties du chapeau pour déployer en fait quatre manières de faire du mentalisme. Et ça va être ça la base du spectacle, donc le mentaliste analyste un peu à la Sherlock Holmes justement, ou le mentaliste embrouilleur, où là on va décrypter les techniques des politiciens sans politiser le spectacle, hein. C'est plus les techniques oratoires. Et donc tout ça c'est un peu rigolo pour faire marrer les gens, pour les bluffer, et puis pour qu'ils se bluffent eux-mêmes, parce que par exemple dans l'enquête de Sherlock Holmes, c'est pas moi qui résous l'enquête, ça va être le public. Et je vais leur expliquer comment faire pour réussir à résoudre l'enquête.
Donc pour les spectateurs de ce samedi soir, les gens qui sortiront du spectacle pourront tous dire « ça y est, moi aussi je suis mentaliste ».
Exactement, c'est exactement ça. Il y a même un moment donné où j'explique un petit numéro qu'ils peuvent refaire très rapidement le lendemain à un repas ou à la machine à café. Et dans le spectacle, et là, quand vous allez réussir, les gens ils vont faire « waouh, mais t'es mentaliste !» Et toi, tu vas faire « ouais, je connais Fabien Licard, ouais.
!» Donc, un tour pour bluffer les gens. Mais nous, ce qui nous bluffe aussi, c'est que vous en êtes déjà plus à votre coup d'essai, parce que c'est quand même le quatrième spectacle, hein, et vous avez rempli des salles comme le Zénith de Paris, des salles énormes. Et donc, nous, on se demandait, ici en Charente, est-ce que c'est important pour vous de revenir dans des plus petites salles, comme donc l'Espace Cara?
C'est même plus que ça, vous allez voir, c'est que je considère depuis toujours Paris comme une ville de tournée parmi les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le parti il y a 10 ans que ce qui m'intéressait, c'est faire de la tournée, donc d'aller dans les villes, parfois même dans des villages, dans des grosses villes, dans des moyennes villes, et d'alterner les jauges des salles. Donc les jauges, c'est le nombre de sièges, de capacité, pour garder les pieds sur terre sur ce que je fais et faire vraiment des trucs différents. C'est du spectacle vivant, donc il doit vivre, quoi. Il doit être malmené, le spectacle, et l'artiste aussi. Il faut que ça bouge. J'ai un exemple très précis. Le 21 décembre 2021, je faisais donc le Zénith de Paris, donc c'était 5000 places, c'était plein. Et 3 jours après, j'étais à Nantes en train d'écrire le nouveau spectacle à la Compagnie du Café Théâtre qui fait 50 places. Donc j'ai divisé la jauge par 100 en 3 jours. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est de faire toutes les tailles possibles, toutes les jauges possibles, de pas me cantonner dans une situation de confort. Moi j'ai beaucoup de chance, hein. Je peux remplir des belles salles facilement, donc... Après, c'est vite fait de devenir un artiste un petit peu dans des chaussons qui fait que les grosses salles, etc. Moi, je veux faire de tout le temps.
Oui, ça aide à garder les pieds sur terre. Donc maintenant, on va parler littérature. Votre nouveau livre est sorti au début du mois. Je cite « Votre idée va devenir une réalité », c'est le titre, sur la procrastination. Et vous dites vous-même sur votre compte Twitter que vous êtes un procrastinateur. Alors moi, je me demande quand même comment c'est possible de faire autant, hein, youtubeur, homme de scène, en étant procrastinateur.
Ben, en fait, j'ai... Pour le coup, là-dessus, j'ai beaucoup travaillé. Moi, je suis un énorme procrastinateur. Je remets tout au lendemain. J'ai du mal à être motivé et tout. Il y a très, très longtemps, je me suis dit, il faut que je lutte contre ça. Et je me suis dit, mais en fait, je crois qu'on est procrastinateur toute sa vie. Et pour le coup, j'en suis persuadé. Donc, en fait, il faut devenir abstinent. Il faut pas chercher à ne plus l'être parce que je le serai pour toujours. C'est comme un fumeur. Quand il arrête de fumer, on dit pas il est ancien fumeur ou il est non fumeur, on dit qu'il est fumeur abstinent. Ben, c'est un peu pareil. Donc effectivement, on a l'impression qu'on regarde mon CV, que je suis boulimique de travail parce que je fais plein de trucs. Pourtant, je vous rassure, Eva, je joue à la console le soir. J'ai beaucoup de temps sur Zelda de prévu en ce moment. Et c'était tout l'intérêt en fait de me dire il faut que je comprenne comment je fonctionne pour avoir des moments toujours efficaces, mais efficaces dans le beau sens du terme, pas forcément pro. C'est-à-dire que quand je travaille, il faut que ce soit efficace. Mais quand je veux prendre du bon temps, il faut que ce soit efficace aussi. Il faut que j'ai le temps de prendre ce bon temps-là. Donc, toutes les techniques que j'utilise, elles sont dans le bouquin. c'est issu de mon expérience, parce qu'à la base c'était fait pour moi-même, et de la science aussi, parce que j'ai cherché à savoir comment fonctionnait le cerveau pour mettre des choses très simples en place. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je me connais, sinon ça va faire comme à la salle de sport, je vais commencer à m'y tenir la première semaine, et puis la deuxième semaine, je vais tout lâcher. Donc j'ai fait des choses en fait très simples, en réfléchissant en profondeur, en testant, et puis après j'ai tout mis dans le livre, et comme je dis dans le bouquin, l'entièreté de ce que je fais pour moi, c'est pas ce qui va servir à tout le monde, mais c'est sûr par contre qu'on a des outils communs, parce qu'on fonctionne tous pareil, qui vont pouvoir être utiles à plein de gens.
Et donc du coup le livre c'est ça, c'est aider les lecteurs à gérer leur procrastination et finalement peut-être au final être même plus efficace qu'avant, même tout en restant procrastinateur.
Ouais, en fait ce que j'appelle efficace c'est par exemple une fois je suis dans un bureau, c'était pas chez moi, où il y a des gens qui travaillaient et tout, et je regarde un mec, il faisait sa pause, mais il faisait pas vraiment sa pause, et en même temps il répondait à des mails et des SMS pour le boulot, et je me suis dit il est pas efficace dans sa pause. Il se repose pas bien. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire que tous les moments doivent être de qualité, en fait. Même si c'est une pause. Même si c'est pas quelque chose d'opérationnel ou de professionnel ou de fonctionnel. Donc, la plus grande frustration qu'il y a derrière, c'est toujours la même quand tu discutes avec les gens. C'est, j'ai pas le temps de faire ceci. Ou, quand j'aurai le temps, je ferai ça. Et l'idée de ce livre, c'était de se dire, je suis la démonstration. Vraiment, je suis la preuve humaine que, en fait, on a le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais pour ça, il faut toucher des petits réglages dans sa manière d'être et sa manière de penser. Mais en fait, on a le temps, tu vois, même écrire un livre. Hein, ce livre, il est très méta, parce que pour l'écrire, j'ai appliqué mes propres conseils pour avoir le temps de l'écrire. Donc forcément, parce que écrire un livre, il y a plein de gens qui se disent, moi, je vais écrire un livre un jour quand j'aurai le temps. Bon, ben, spoiler alerte, vous n'aurez jamais le temps. Donc le meilleur moment pour l'écrire, c'est maintenant. Et voici comment faire, en fait.
Votre livre s'appelle, je le rappelle encore une fois, Votre idée va devenir réalité. Est-ce que vous, votre idée, elle est devenue réalité? Vous aviez imaginé faire tout ça, donc mentaliste, youtubeur, écrivain, avoir toutes ces petites casquettes finalement posées comme ça dans le dressing?
Ben, moi, j'ai un grand secret, Eva, c'est que j'ai pas de plan de carrière. J'ai pas de plan de tout ça, c'est que des heureux hasards. Alors, dit comme ça, ça fait un peu bisounours, mais pourtant, c'est vrai, je me suis toujours dit, je ferai ce qui me plaît, et puis on verra. Du coup, ce qui est pas mal quand on n'a pas de plan à long terme, c'est qu'on est très flexible. Donc, moi, j'ai commencé par faire du spectacle, et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire quelques vidéos, et puis en fait, ça fait 7 ans que j'en fais. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre, et puis ça fait mon 7e livre qui vient de sortir. Et demain, je suis capable d'arrêter toutes ces activités pour en faire d'autres. Parce qu'en fait, j'ai juste envie de m'écouter et d'être très efficace dans ce que je fais en termes de réalisation, mais aussi en termes de plaisir, quoi. Il faut que ce soit toujours un plaisir. Si demain, les vidéos me plaisent plus, bon, ma foi, je dirai au revoir aux vidéos, et puis c'est pas très grave. J'ai monté un super magazine il y a 3 ans qui s'appelle Curious. Et là, pour cette 4e année, je viens de le quitter. Alors, il existe toujours sans moi. C'est d'autres personnes qui l'ont repris. Mais parce que, je trouvais que j'avais fait le tour. Donc, en fait, il faut pas hésiter aussi à mettre fin à des choses et à toujours s'écouter, en fait, dans le plaisir de se réaliser, quoi.
Donc, au final, c'est un peu cliché, mais l'idée, c'est la liberté, quoi.
C'est pas un cliché chez moi. La liberté, ça fait longtemps que j'ai déterminé que c'était ce qui me rendait heureux. Alors, attention, la liberté, elle a un prix. C'est-à-dire que, il y a des fois, faut assumer, quoi. Si je prends du point de vue professionnel, j'aurais pu avoir une grande carrière très tôt si j'avais accepté les propositions des producteurs. Mais comme je trouvais que ça m'enlevait de la liberté, j'ai refusé. Donc voilà, il y a du bon et du mauvais. L'important, c'est même pas tant la liberté. La liberté, c'est important pour moi, mais c'est peut-être moins important pour quelqu'un d'autre qui va chercher plutôt quelque chose de confortable, on va dire. Il faut savoir, en fait, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous fait bouger. Moi, je sais que c'est majoritairement le premier point. C'est pour ça que ça, je dis pas que je veux l'arrêter. C'est le spectacle vivant. C'est quand je rencontre le public, qu'on passe 2 heures ensemble, qu'on se marre, que j'arrive à faire naître de la curiosité, qu'on discute après, c'est le vivant qui me plaît le plus. Donc ça, je sais que je le ferai toujours, quoi, par exemple.
Et est-ce que le mentalisme, ça peut aider à se comprendre soi-même et à comprendre, nous, ce qu'on veut justement dans la vie?
Alors, le mentalisme en tant que tel, je pense pas, mais on en revient à ce problème des définitions qu'on avait tout à l'heure. Mais par contre, quoi qu'il arrive, le fait de se poser des questions, déjà, c'est pas mal. Parce que le cerveau, il fonctionne un peu en mode par défaut, c'est-à-dire qu'il pense tout seul. Votre cerveau, il est configuré pour décider vite, pour penser vite, pour avoir un avis rapidement. Et ça, on le remet assez peu en cause. Le remettre en cause, c'est déjà mieux se comprendre. C'est se dire, par exemple, si je suis en train de penser des choses très négatives sur quelqu'un, de me dire, attends, pourquoi je suis en train de penser ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de penser ça déjà? Et pourquoi je me dis ça? Bah, parce qu'il est toujours en retard, d'accord. Et pourquoi ça me dérange qu'il soit en retard? Parce que je trouve qu'il ne me respecte pas, d'accord. Donc pourquoi c'est important de rester pour moi? Et comme ça, en se posant des questions, on appelle ça la méthode des pourquoi, on arrive tout de suite à se comprendre plus rapidement, à rentrer en introspection. Faut éviter de laisser toujours son cerveau en roue libre penser tout seul.
Merci. Et donc, du coup, avant de nous quitter, est-ce qu'il y a d'autres projets en préparation pour vous, grands procrastinateurs? Peut-être cette fois-ci sur YouTube, ou un nouveau spectacle encore en préparation? Qu'est-ce que réserve à Fabien
Lucard? Le nouveau spectacle, ce serait prématuré parce que ça, c'est le quatrième. Je l'ai lancé depuis moins d'une saison. Donc, on va le laisser vivre encore au moins deux saisons. Les vidéos, elles sont perpétuelles. Hein, c'est un cycle sans fin. Les livres aussi. Donc, j'aurai quelque chose à écrire. Et puis des grands projets en préparation, non. C'est un peu la flexibilité dont je parlais tout à l'heure. C'est là, je vous dis non maintenant. Si ça se trouve, je vais raccrocher, je vais avoir une idée, et puis je vais commencer à lancer sa création et son existence. Donc j'ai pas de grosses échéances. Après, c'est aussi parce que j'ai beaucoup de chance. Hein. C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu envie de faire jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. Donc si tout restait comme ça, je serais déjà le plus heureux des hommes.
Parfait, donc on rappelle donc Fabien Olicard que vous serez ce samedi 27 mai dès 20h à l'espace Cara pour votre spectacle Archétype, un nouveau spectacle inédit de mentalisme. Et bien sûr, on vous retrouve toujours sur YouTube, sur Instagram et en librairie avec le nouveau livre « Votre idée va devenir une réalité ». Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler de votre parcours et de votre actualité. Et rendez-vous donc samedi 20h à l'espace Cara.
Merci à vous deux.